Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons à présent échanger autour du projet Star Est. Quel est le plan des déploiements dans la partie ouest du pays et comment ce projet prend aussi en charge les cas de violences basées sur le genre? On va échanger à ces sujets avec Madame Brigitte Kapinga Saouda, qui est coordonnatrice générale du projet Star Est. Madame Brigitte Kapinga, bonjour.
Bonjour M. Jordi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Je disais qu'elle est coordonnatrice générale du projet Star Est. Avec elle, nous allons en savoir plus sur ce projet. Des questions et préoccupations, composez les 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Sylvain Baugueré à la mise en onde. Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission. Meshak Moutamontou et Esther Mamboté sont au live, sur les lives, sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, nous parlons du projet Star Est, initialement concentré dans les parties, dans les provinces de l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Le projet Star Est étend désormais son champ d'action dans la partie ouest, notamment dans le Kwango, avec un financement de 250 millions de dollars américains de la Banque mondiale. Ce projet gouvernemental va s'adresser aux défis à la base de la vulnérabilité économique, des conflits intercommunautaires, les violences basées sur le genre, etc. Alors, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Madame Brigitte Kapinga pour savoir comment évolue l'exécution de ces projets dans la partie ouest du pays, quelle implication concrète cette extension géographique aura-t-elle sur les terrains, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire. Eh bien, on aura beaucoup des informations sur ce projet dans quelques instants. Madame Brigitte Kapinga, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Vous êtes coordonnatrice générale du projet Star Est. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet, pouvez-vous un peu nous en dire un peu plus? C'est quoi le projet Star Est?
Merci beaucoup, monsieur Jody, pour la question et surtout pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir de nous retrouver à la radio Capi. Ça fait plusieurs années que nous discutons, qu'on nous échangeons ensemble avec les auditeurs. Et c'est toujours
plus
un plaisir.
Peut-être près de 20 ans.
Plus de 20 ans, ah, oui. Je confirme. Plus de 20 ans. On a commencé ensemble en 2004.
Depuis 2004,
donc, ça va faire 22 ans aujourd'hui qu'on est avec la radio Capi. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes venus parler pour le Star RDC. En fait, la dernière fois que j'ai été ici, on était en train de parler des Star Est, qui est le projet de stabilisation et réintégration à l'est de la RDC. Mais le projet s'est étendu à l'ouest, comme vous venez de le dire. Et désormais, on ne parle plus de Star Est, mais on parle plutôt de Star RDC.
OK.
Ça, c'est un élément de détail que je voulais parler ici.
Apporter, oui.
Donc, ce projet, c'est un projet du gouvernement congolais avec l'appui financier de la Banque mondiale à l'auteur de 250 millions de dollars. Et il a pour cible les populations vulnérables affectées par les conflits. Et quand nous parlons des populations affectées par les conflits, comme je venais de le dire, c'est vrai dans sa conception. Ce projet s'adressait beaucoup plus à l'est de la RDC, principalement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui étaient en son temps des provinces post-conflit. Mais tout chemin faisant, le conflit a ressurgi encore avec beaucoup plus d'acuité qu'avant, ce qui a fait que le projet a évolué. Elle a évolué, c'est sur demande de son Excellence Madame le Premier ministre, qui nous avait reçu et qui avait dit, c'est vrai, en son temps, les conflits n'étaient pas encore tels qu'il est aujourd'hui.
Oui.
Il y a aussi les conflits communautaires dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Et elle nous a parlé des conflits Kamena-Sapo pour les Kasaï, des conflits de Mobondo pour ce qui concerne le Maïntombe, les Kwilu et les Congo. Nous avons ce qu'on appelle les conflits oubliés de Bundudia Congo. Mais tous ces conflits-là ont des répercussions sur les communautés locales.
Oui.
Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le projet Star RDC s'est étendu à l'Ouest. Mais c'est quoi le projet Star RDC? Je venais de le dire que ce projet travaille avec les populations vulnérables qui ont été victimes des conflits. Et il travaille aussi pour appuyer les administrations dans les provinces dans lesquelles il travaille. Et ce projet s'articule autour de 5 grandes composantes.
Lesquelles?
Et ces composantes sont premièrement la stabilisation à base communautaire avec 2 sous-composantes, dont la première sous-composante est la facilitation et le renforcement des capacités pour l'élaboration de plans de développement communautaire. Et la deuxième sous-composante est les investissements dans les infrastructures socio-économiques de base résilientes au climat. Et la deuxième composante du projet, c'est la réintégration à base communautaire, parce que j'étais en train de parler ici que le projet vise la réintégration de personnes vulnérables dans leur communauté et aussi des personnes sorties des groupes désarmés. Pas des groupes armés, mais des groupes désarmés.
Ok. Assurer leur réintégration socio-économique
dans leur communauté.
D'accord.
Ainsi que les communautés de réintégration. C'est-à-dire quoi? Vous avez les personnes qui ont été dans les groupes armés, et puis ces groupes-là se sont disloqués, ils se sont désarmés. Ces personnes-là redeviennent des civils, ils doivent réintégrer leur communauté. Alors nous travaillons avec ces personnes ainsi que leur communauté, parce que 99,9% de ces personnes, ce sont des personnes qui viennent de groupes très marginalisés. Voilà pourquoi nous travaillons avec ces communautés-là pour relever tant soit peu leur niveau de vie. Mmh. Et là, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne la composante 2, la première sous-composante, ce sont les travaux à Timo de réhabilitation de pistes de dessertes agricoles. Et là, nous avons 1125 kilomètres à réhabiliter. Et nous sommes passés aujourd'hui de 1125 à 1400 kilomètres à réhabiliter. Mais qui pourra aussi changer? Pour la simple raison qu'au départ, nous avions commencé à travailler dans la méthode IMO pure et simple. Mais avec la demande du gouvernement et son partenaire, le bailleur de fonds, qui est la Banque mondiale, on est en train de voir comment travailler sur des routes qui soient plus durables. Or, le route...
Cela veut dire que vous allez asphalter, les asphalter.
C'est possible. Soit asphalter, soit alors bétonner dans la mesure du possible. Nous sommes en discussion avec le bailleur pour voir quelle sera la méthode la moins coûteuse. Mm-hmm. Mais nous n'allons pas continuer avec le route vraiment de desserte agricole pure telle qu'on le faisait avant.
Pourquoi?
Parce que les gouvernements congolais ainsi que son partenaire voudraient à ce que nous puissions avoir des routes qui soient durables.
D'accord.
Et si on doit faire des routes qui soient durables, soit dans le milieu qui peuvent offrir, nous pouvons faire des routes empierrées, c'est-à-dire des routes qui seront revêties de pierres et qui sont des routes durables. Ou alors, si le moyen le permettront, peut-être on pourra arriver à des routes stabilisées. Là, nous sommes en train de discuter. Je ne vais pas m'étendre ici parce que je ne suis pas technicien à la matière. Mais seulement, je dois informer que nous allons changer la méthode des routes sur lesquelles nous sommes en train de travailler.
D'accord.
Ça ne sera plus vraiment de routes qui durent moins d'une année, mais ça sera de routes durables. Ce qui fait que nous risquons de réduire notre score à la baisse parce que le coût ne sera pas le même. Et à la sous-composante de 2, nous avons les subventions en espèces pour les AGR. J'étais en train de dire que ces groupes vulnérables, ils ont besoin des appuis financiers pour leur permettre de faire les activités qui les honorent en fait, pour améliorer leurs conditions de vie. Et pour ce faire, nous avons des petites subventions en espèces que nous donnons. Et on ne se limite pas qu'aux subventions. Nous les accompagnons aussi dans les formations et comment arriver à rentabiliser leurs
activités
génératrices de revenus.
Oui.
Et donc, nous avons la sous-composante 3 qui est la gouvernance décentralisée. Et cette sous-composante a aussi trois sous-composantes. Dans cette sous-composante, nous travaillons avec le gouvernement provincial dans toutes les provinces d'intervention. Et là, nous avons comme première sous-composante le renforcement de la collecte des revenus générés en interne. Donc, nous travaillons avec le service d'assiette dans chaque province pour les amener à améliorer leur recettes internes. Et la deuxième sous-composante de cette composante, c'est améliorer la gestion budgétaire et comptable. Partout où nous sommes passés, nous avons trouvé que, bien sûr qu'il y a la comptabilité, mais cette comptabilité-là n'est pas optimum, ce qui fait que dans plusieurs provinces, il y a des recettes qu'on ne sait pas retracer. Ou des retraites.
Il y a une opacité dans la gestion.
Peut-être une opacité, mais ça peut être une opacité pas vraiment voulue. C'est tout simplement parce que la technicité, elle n'est pas optimale. Mm. Voilà pourquoi nous travaillons aussi avec ces gouvernements pour les amener à renforcer leur capacité. Et nous travaillons aussi dans l'accroissement de la transparence et la responsabilité dans la gestion de ressources générées. Vous savez que tous les affres que nous avons dans différentes provinces, tous les problèmes qu'il y a la plupart du temps, c'est aussi la redistribution de ressources qui régorgent les provinces. Mmh. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça peut être de façon non délibérée. Que la population croit qu'il y a beaucoup de recettes dans les provinces, nous n'avons pas accès.
C'est ça.
Et on taxe le gouvernant de détourneur de ceci.
Voilà.
Et dans d'autres provinces, bien sûr, il peut y avoir de recettes, mais on ne sait pas non plus les canaliser. Et tout ça là, ça cause de méfiance entre le gouverné et le gouvernant. Mmh. C'est pour cela que nous, dans la sous-composante 3, nous travaillons dans la transparence.
Dans la redevabilité.
Nous amenons ce gouvernement provincial à la redevabilité. Nous travaillons avec la société civile ainsi que toute la couche des populations pour que tout le monde sache qu'est-ce que fait le gouvernement, que gagne réellement le gouvernement et comment est-ce que ce budget est réparti au niveau des provinces. Parce que nous aidons aussi à élaborer le budget, nous faisons le budget participatif au niveau des provinces. Mmh. Ça, c'est pour ce qui concerne la sous-composante 3. La sous-composante 4, elle est relative à la gestion du projet. Là, je ne vais pas m'y étendre parce que ça, c'est la gestion du projet. Bien sûr que nous avons aussi les appuis techniques que nous donnons à certains partenaires qui sont le PDDRCS et qui sont le PRA avec lequel nous travaillons. Et la quatrième composante, c'est la composante relative aux préventions et réponses à la violence basée sur le genre, incluant les abus et l'exploitation sexuelle et les harcèlements sexuels, ainsi que l'autonomisation de femmes vulnérables. Cette sous-composante, c'est la sous-composante 6, parce que la sous-composante 5, je n'en parlerai pas, parce que ça, ce sont les réponses en cas de catastrophe. Mmh. C'est une sous-composante qui n'a pas de budget. On ne le déclenche que s'il y a une catastrophe qui se déclenche et que le gouvernement demande à ce que son partenaire financier puisse déclencher cela. Donc, je n'en parlerai pas, mais je vais m'appesantir plutôt à la composante 6 que je venais d'invoquer ici, qui est la prévention et réponse des violences basées sur le genre, qui a 6 sous-composantes, dont la première est la prévention et les violences basées sur le genre, et appui intégré pour le survivante et survivant et autres vulnérables au niveau de communauté. Comme vous le savez, nous travaillons dans des provinces à problème, des provinces qui connaissent ou qui ont connu des conflits intercommunautaires ou des conflits armés. Et vous le savez que depuis quelques décennies, les violences basées sur le genre sont, spécifiquement les violences sexuelles, sont utilisées dans certains coins comme des armes de guerre.
Oui.
Et pour ce faire...
Armes de domination pour dominer une population.
Exact. Mm. Et pour ce faire, le projet s'attelle à travailler pour apporter une réponse à ces violences-là. Et la deuxième sous-composante, ce sont les réponses basées sur le genre que nous allons apporter. Donc, je disais que la première sous-composante, c'est plutôt la prévention de ces violences. Parce qu'il ne faut pas seulement apporter des réponses, mais il faut aussi travailler sur comment on peut arriver à prévenir ces violences. Et la troisième, c'est la réinsertion socio-économique de ces personnes qui ont connu les viols et les violences basées sur le genre. Et la quatrième sous-composante, c'est plutôt le soutien à la vulgarisation de politiques et de lois. Parce que vous savez, nous ne travaillons pas seulement pour apporter des réponses, nous ne travaillons pas pour prévenir, mais aussi pour vulgariser les textes. Parce que le texte de loi, il y en a. Mais souvent, pas... ce sont des textes qui ne sont pas connus. Ce sont des textes qui sont méconnus. Et donc, nous travaillons aussi pour vulgariser ces textes-là auprès des populations, auprès aussi ça peut être de tous les intervenants.
Vous faites des traductions en fait. Dans les langues locales.
Certainement. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous allons le faire. Nous allons faire les traductions dans les langues locales.
Locales, oui.
Et nous allons faire aussi des vulgarisations, certainement, que nous passerons par le média pour que les gens comprennent quels sont les textes qui existent, tant au niveau national qu'au niveau international, et qui préviennent ces cas de violence basée sur le genre. Et certainement qu'il y a beaucoup de textes aussi à l'international, mais qui peut-être au niveau local, au niveau national, ne sont pas connus, ou alors s'ils sont connus, ne sont pas vulgarisés et ne sont pas appliqués. Et donc, au niveau du projet, nous allons travailler aussi sur ces points-là. Et le dernier, ce sont les frais opérationnels, parce que tout ce que nous venons de dire ici, ça demande beaucoup plus de coûts.
Et le projet Star RDC dans son ensemble, c'est un projet de combien d'années?
Ah, c'est un projet de 5 ans.
5 ans.
Oui, il a commencé avec sa vulgarisation, donc le jour de la signature de l'accord de financement, c'était au 30 novembre 2023. Officiellement, ça s'achève au 31 décembre 2027. Donc, il ne nous reste plus que 2 ans pour lesquels nous sommes en train de travailler dans le cadre de ce projet. Mmh. Donc, voilà un peu de façon ramassée si on a pu parler du projet. Dans sa globalité, ce qu'est le projet Star RDC. Mais comme nous l'avons dit, ce projet a commencé. Donc, il ne vient pas de commencer.
Oui.
Il a commencé depuis maintenant 2 ans dans sa mise en œuvre. Et nous avons déjà des réalisations. Au mois de janvier, nous sommes allés sur le terrain, personnellement. J'étais dans le Nord Kivu, j'étais aussi dans l'Ituri, où nous sommes allés remettre officiellement les infrastructures socio-économiques de base que nous avons construites, qu'on a équipées, que nous sommes allés
remettre. En janvier de cette année.
En janvier de cette année, c'était okay. Les infrastructures de l'année passée.
Mmh.
Et au 31 décembre 2025, nous avons achevé la construction et les équipements des 36 infrastructures dans 28 écoles équipées totalement, composées des 6 salles de classe, le bloc sanitaire et le bloc administratif, et le tout équipé. Et même il y a l'accès à l'électricité parce que nous avons mis les panneaux solaires, parce que comme j'ai eu à le dire, que ce sont les infrastructures résilientes au climat. Et donc, nous avons mis les panneaux solaires. Donc,
et là, c'est dans à Goma ou
Non, nous sommes dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu, nous sommes dans le territoire de Beni. Là où, en fait, nous ne travaillons que là où le gouvernement a encore la mainmise.
D'accord.
Donc, à Goma, nous ne travaillons que dans la composante 6, qui est les violences basées sur le genre, que ce soit à Goma, que ce soit dans le site Kivu. Mais pour tout ce qui est infrastructure, les zones qui sont occupées, nous n'y travaillons pas. C'est ainsi que nous sommes dans la ville de Beni, dans Beni territoire et dans le territoire de Lubero. Et là, nous avons remis au gouvernement 12 écoles et 4 centres de santé. Et je dois dire ici que notre centre de santé, tout comme les écoles, sont totalement équipés. Et nous travaillons la main dans la main avec les structures étatiques qui en sont d'ailleurs le maître d'œuvre. Donc, quand nous avons fini, nous les remettons au gouvernement qui continue à les utiliser. Mais bien sûr, nous, on a quand même un œil pour voir si tout marche bien. Et au-delà de ces 36 infrastructures que nous avons déjà remis au gouvernement, nous avons 72 autres que nous allons remettre au mois de mai, c'est le plus tard possible. Et à la fin de cette année 2026, nous allons remettre au gouvernement 268 infrastructures. Et pour ce qui concerne les routes de dessertes agricoles, nous en avons déjà 162 kilomètres qui sont réhabilités et en phase d'achèvement, que nous comptons remettre au gouvernement, en tout cas le plus tard possible, c'est au mois de mai. Et nous avons encore 300 pour lesquels les études sont déjà faites, le marché ont été lancés et qui vont commencer incessamment. Et donc nous travaillons progressivement. Et pour ce qui est du Grand Bandundu, donc de nouvelles provinces que nous venons d'intégrer dans le projet, nous avons déjà identifié, parce que, comme j'y allais dire, le gouvernement congolais, ainsi que son partenaire, le bailleur de fonds, la Banque mondiale, ils ont déjà signé le document de la restructuration du projet. Ce qui nous donne le quitus de pouvoir aller travailler sur le terrain dans les trois nouvelles provinces.
Maïndombe,
Kwango et Kwilu. Et je dois dire ici que nous avions déjà commencé les travaux préliminaires, dont nous avons déjà été en contact et avec les administrations et avec les communautés. Pour identifier les besoins, pour connaître les besoins de ces populations.
Oui.
Et au jour d'aujourd'hui, dans le Maïndombe, nous avons 10 infrastructures qui nous ont été proposées par les communautés, accepté par le gouvernement provincial. Il nous reste maintenant ce que nous appelons les comités consultatifs provinciaux que le gouverneur va convoquer incessamment avant la fin de ces mois. Et c'est là pour les trois provinces pour pouvoir maintenant légaliser, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire entériner ce que les communautés ont décidé de faire. Et nous avons aussi des routes de dessertes agricoles dans les Kwango. Nous avons 30 infrastructures qui ont été identifiées.
Un instant, Madame Brigitte, on va accueillir un auditeur, Ismaël Mopoy, qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. Nous parlons du projet Star RDC. Ismaël Mopoy, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Tachama. Bonjour, Madame l'invité. Merci, les auditeurs de Radio 4.
Bien, on vous écoute.
Ah, merci beaucoup. J'ai demandé pour vous poser à Madame la première question, c'est de savoir comment on peut faire un peu le parallélisme entre le projet Starel et la paix que nous n'avons pas en RDC. Cela sera suffisant d'exécuter tous les projets qu'ils ont unifiés tant que nous n'avons pas la paix. À juste titre qu'il a donné quand même les infrastructures dont vous aviez un peu livré l'année passée et que ce projet totalise déjà 2 ans. Quel est le bilan par rapport au début du projet et au moment où nous sommes? Et nous savons que dans une juste mesure ou une autre, il y a quand même des difficultés pour livrer ou construire des infrastructures compte tenu des matériaux qui n'arrivent pas autant voulus vis-à-vis de la difficulté routière. Qu'est-ce que ça s'approprie? Seulement construire des routes et plutôt construire des bâtiments où il se base aussi à l'amélioration aussi des infrastructures routières. Des fois, je n'ai pas compris quand il dit qu'ils associent un peu le membre de la société civile que je suis. Selon notre objectif 4 ou selon notre convention avec l'État où la société civile contrôle aussi le pouvoir public. Mais par rapport à cela, si la société civile n'a pas les cahiers de charges de ce qu'ils vont faire comme bilan pour une année, comment allions-nous suivre et faire pression par rapport à ce qu'ils sont en train de prévoir? Et comment jugez-vous aussi le détournement de notre pays parmi tous les mouvements? Nous avons vu le budget de 250 millions de dollars qui sera levé pour un peu faire ce projet. Comment la dame peut nous dire il y aura la certitude que cet argent ne sera pas détourné, est-ce que la société civile a les cahiers de charges, etc. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.
Bien, merci à M. Mumpoy depuis la ville de Lubumbashi. Madame Brigitte, vous avez la parole.
Merci beaucoup M. Mumpoy. Il a posé la question comment faire le parallélisme avec le manque de la paix.
Voilà.
Dans
la partie est du pays.
Dans la partie est. Ma réponse se retrouverait dans la première partie de mon intervention. Parce que je vous ai dit que le projet d'abord avait été conçu dans une situation de post-conflit. Je ne dirais pas que le projet a pour ambition de ramener la paix. Parce que comme vous le savez, Monsieur Mopoy, parce que la paix englobe beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'interventions pour lesquelles le 250 millions du projet, c'est vraiment comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais par contre, les projets prônent le vivre ensemble. C'est ça l'objectif ultime, la cohésion sociale. Et c'est pour cela que j'ai dit tantôt que nous travaillons avec des personnes sorties des groupes des armées, ainsi que leur communauté de retour. Nous travaillons aussi dans la communication pour amener cette population à prendre conscience que les conflits n'ont jamais construit un pays. Mais le pays ne peut se construire que si et seulement si il y a la paix. Et nous, à partir du moment où il y a la cohabitation pacifique, à partir du moment où il y a la cohésion sociale, nous allons dire que le projet a atteint ses objectifs. Ramener la paix, c'est l'objectif de tout le monde, de tout celui, de tout Congolais en fait.
Oui, bien sûr. Nous aspirons tous à la paix.
Mais les intervenants se retrouvent à plusieurs niveaux où les projets ne peuvent pas se targuer à lui seul de pouvoir y parvenir malheureusement. Il a posé encore la question de difficulté. D'abord, le bilan par rapport à ce que nous avons fait. Je pense que j'ai énuméré ici que nous avons construit les infrastructures socio-économiques de base. J'ai parlé aussi de routes de dessertes agricoles. Toutes les infrastructures pour lesquelles nous travaillons, nous nous organisons pour que l'accès à ces infrastructures soit facilité. Parce que s'il n'y a pas accès, ces infrastructures ne serviront absolument à rien. Voilà pourquoi nous avons réhabilité des routes. Je me rappelle dans la chefferie de Andissoma, nous sommes ici à Nitori, d'où moi-même je viens. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Nous avons recueilli des témoignages des communautés et même du gouverneur de la province qui a certifié que ça faisait des années que même pour le moto, c'était difficile de pouvoir arriver dans ces coins-là où nous venons de construire non seulement une école, mais aussi un centre de santé moderne et équipé. Mais aujourd'hui, en 45 minutes, tu quittes la ville de Bounia, tu y arrives.
Tout simplement. C'est voilà. à combien de kilomètres de la ville de Bounia?
Je pense
que
ça peut être dans les 70 kilomètres.
Ok.
Mais en 45 minutes, bon, ça doit être dans 40 kilomètres, je crois. 40 kilomètres. 43, précisément. Et vous faites maximum une heure et vous y arrivez sans encombre. J'ai vu le chef qui était très content, la population, parce que c'était la première fois qu'il voyait le gouverneur. Parce que c'était impossible de pouvoir y aller. Et aussi, je suis en train de parler ici de la cohésion sociale. Un élément très important. J'avais dit ici que ce sont les communautés qui choisissent les infrastructures. Pour ce qui concerne spécifiquement ces centres de santé, ce ne sont pas les communautés de ces coins-là qui ont choisi cette infrastructure.
Mais qui ont choisi alors?
C'est une communauté adverse avec laquelle ils ont eu à se battre pendant des années. Ils se sont entretués comme pas possible. Mais c'est cette communauté-là qui a dit « Allez construire ces centres de santé là-bas. » Comme ça sera un point de rencontre pour nous tous. Et ça,
et l'autre communauté a accepté aussi.
L'autre communauté a accepté. Mmh. Et la route que nous avons faite, maintenant, ça relie les deux communautés. Au lieu d'être des rivaux, aujourd'hui, ils sont des partenaires. Parce que dans l'autre communauté, on a construit les centres de santé. Dans la première communauté, on a construit une école. Dans la deuxième communauté, un centre de santé. Donc, ce qui fait que les enfants de la communauté de Walendu Bindi, parce que c'est d'eux qu'il s'agit,
oui,
vont aller étudier chez les Walendu Piti. Et les gens de Walendu Piti vont aller à l'hôpital dans le Walendu Bindi. Et donc, ça devient des échanges entre communautés.
Oui.
Alors que
ces infrastructures les rapprochent, quoi.
Ces infrastructures les a ramenés ensemble. Mmh. Et c'est ça l'objectif ultime de ces projets qui est le Star RDC.
Alors maintenant, parlons des trois provinces de l'Ouest. Le Maïndombé, le Kwilu, le Kwango.
Il y a une question sur laquelle je n'ai pas répondu. Parce
oui, il a parlé du bilan.
Non, il a parlé aussi des détournements.
Ah, les cas des détournements.
Oui, il a parlé de cas des détournements. Mmh. Il a dit que lui, il fait partie de la société civile.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Parce que la société civile... Moi, je ne parlerai pas des cahiers des charges. Je dirais que la société civile est partie prenante dans ces projets. Au niveau des provinces, nous avons la première, donc le pouvoir sur ces projets ici, qui est au-dessus du projet, qui lui donne mandat sur ce qu'elle fait, c'est les comités consultatifs provinciaux. Et dans ces comités, la société civile y est. Et le président de ces communautés, c'est le gouverneur. Nous avons les comités locaux de développement. Partout où nous construisons les infrastructures, l'œil et l'oreille du projet, ce sont les comités locaux du développement. La troisième chose, nous avons les comités de gestion de plaintes. Ce sont des comités qui sont mis partout où nous intervenons, mmh, pour voir si même nous-mêmes, est-ce que le travail que nous faisons, ils sont contents de ça? Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? C'est ces comités-là qui les gèrent.
Est-ce qu'il y a des réclamations, tout
ça? S'il y a des réclamations, voilà. Mmh. Donc, nous avons mis sur place un certain mécanisme pour que toute la société civile, qui n'est pas seulement bénéficiaire, mais qu'elle soit actrice de toutes les activités de ce que nous sommes en train de faire.
Bien. Alors, à présent, dans le Maïndombé, dans le Kwilu, dans le Kwango, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, particulièrement dans les volets violences basées sur le genre?
En fait, nous allons faire exactement le même travail que nous sommes en train de faire à l'Est. Nous n'avons pas ajouté un autre paquet par rapport à nos objectifs parce que nous avons gardé nos mêmes objectifs, nous avons gardé les mêmes méthodologies, nous avons gardé la même vision. Et pour ce qui concerne les violences basées sur le genre, premièrement, nous allons faire l'organisation des réponses médicales d'urgence dans le délai de 70 heures pour les cas de violences basées sur le genre. Et c'est ce que nous faisons à l'Est. Il y aura aussi la prise en charge médicale et l'assistance psychosociale de qualité aux survivants et aux victimes de violences basées sur le genre. Nous allons mettre en place un système d'alerte précoce et d'assurance et du référencement dans des centres intégré et multisectoriel pour pouvoir prendre en charge les cas de violence basées sur le genre. C'est le travail que nous avons déjà fait. De l'autre côté, on va faire l'organisation du recueil, de l'analyse et de la documentation de preuves médico-légales. Nous allons suivre les survivants de cas de violence basées sur le genre.
Il y en a eu aussi beaucoup avec le conflit Mobondo.
Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup avec le conflit de Mobondo.
Qui ont été documentés.
Le vendredi, le vendredi passé, j'ai reçu, là, j'extrapole un peu avant de parler sur le cas Mobondo. Parce que sur le cas Mobondo, pourquoi nous sommes allés intervenir? Parce que comme j'ai allé dire que nous sommes intervenus tout simplement parce qu'il y a eu la demande de Madame le Premier ministre. C'est le chef du gouvernement. Mmh. Et si elle a demandé, c'est parce qu'elle sait qu'il y a deux cas. Et nous travaillons depuis maintenant 4 mois avec le gouverneur de ces 3 provinces qui nous ont expliqué tout ce qui se passe chez eux et ce qui s'est passé. Vous savez, les cas de viol ou de violence, ça laisse de victimes. Ça peut être la personne touchée ou le membre de la famille de la personne touchée, et ça a des répercussions négatives sur toute la communauté. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. J'étais en train de dire que je voulais un peu extrapoler sur le cas que j'ai reçu ce vendredi.
Oui.
J'ai reçu le gouverneur du Kasaï dans notre bureau, qui est intéressé aussi par le travail que nous sommes en train de faire. Qui nous a expliqué, là nous sommes dans le cas de Kamuna Sampo. Le gouverneur nous a relaté les cas de violence qui ont été perpétrés
Pendant le conflit
de Kamuna Sampo. Il y a des vidéos qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées jusqu'à aujourd'hui. Voilà
et
pourquoi,
qui n'ont pas été correctement prises en charge.
Voilà pourquoi l'intervention du projet Star RDC est attendue vraiment avec acuité. Voilà pourquoi, et là je dis merci beaucoup à ces trois gouverneurs qui, quand ils sont à Kinshasa, ils n'hésitent pas de se déplacer pour venir dans nos bureaux pour que nous puissions discuter sur ce que nous allons faire ensemble. Et aujourd'hui, on ne voudrait pas arriver dans le cas qui se passe à l'est de la RDC. C'est pour cela que les activités de prévention sont très importantes. Parce que nous ne devons pas seulement penser à la prise en charge des personnes qui ont été affectées, mais nous devons travailler surtout en amont sur la prévention de ces cas. Je prends un exemple de ce que le travail que nous avons fait à l'est. Nous avons commencé le travail seulement pour 6 mois. Et je ne peux même pas parler de 6 mois, je parlerai plutôt de 5 mois, parce que nous avons commencé en juillet jusqu'au 31 décembre. Nous avons pu recenser 9861 cas de viol. Ici, je ne parle pas de violence, hein. Je parle
viol
uniquement
seulement.
De viol.
9861
cas. Et ça, ce sont des cas connus qui sont venus
documentés
vers vous.
Mais il y en a d'autres qui ne sont pas déclarés.
Prise en charge.
Oui.
Combien qui ne sont pas déclarés? Combien de cas qui n'ont pas eu la possibilité de se rendre jusque dans les hôpitaux dans lesquels nous travaillons? Parce que pour le moment, nous travaillons avec la Fondation Panzi pour ce qui est du site Kivu. Nous travaillons avec l'hôpital Île Africa pour ce qui est du Nord Kivu. Nous travaillons avec le consortium IRC Sofepadi pour ce qui est de l'Ituri. Nous avons pu recenser 1154 cas de grossesse issue des viols. On a pu appuyer 728 naissances sur le 1154 grossesses issues des viols. Il y a d'autres qui sont là mais qui n'ont pas encore accouché. Mais ceux qui ont accouché, nous avons 728 accouchements issues des viols. Et vous savez, quand c'est un accouchement ici des viols, la maman est traumatisée. Et la plupart des cas, ce sont des enfants que le maman n'accepte pas.
Oui, mais les enfants qui sont rejetés.
Les enfants qui sont rejetés. Nous devons prendre ces parents, cette maman en charge, psychologiquement, matériellement, financièrement, ainsi que l'enfant. Et surtout psychologiquement, pour que la maman
accepte
son bébé.
C'est pas facile, hein?
C'est pas facile. C'est un grand travail sur lequel nous sommes en train de travailler. Et là, nous avons notre partenaire Vivo, qui est spécialiste dans la prise en charge psychosociale, qui est en train de travailler avec toutes ces femmes-là. Il y a eu 1114 cas de chirurgie réparatrice, de cas de fistules, de personnes qu'on a violées, de cas de prolapsus anal et d'autres complications gynécologiques. Et tout ça là, ce sont de cas avérés, de cas documentés. Quid alors de tous les cas qui ne sont pas documentés? Quid des cas des milieux isolés où les gens ne peuvent pas accéder à nos centres de santé? Combien même nous avons mis en place aussi des cliniques mobiles qui vont de village à village, mais on ne peut pas déplacer toute une clinique pour une seule personne. Il faut qu'il y ait plusieurs cas pour que la clinique puisse se déplacer.
Oui.
Maintenant, les cas des gens qui sont dans la brousse, qui n'ont même pas connaissance du travail que le Star RDC est en train de fournir. Donc le problème est assez colossal. Beaucoup de gens pensent que c'est vraiment une histoire qui n'a pas assez d'ampleur, mais je peux vous rassurer, si on peut arriver à plus de presque 10 000 cas en 5 mois, qu'en est-il des autres mois?
Bien, on va accueillir un auditeur, Gaston, depuis la ville de Kinshasa. Nous parlons du projet Star RDC qui s'étend dans la partie ouest du pays. Qu'est-ce qui sera fait? Quels sont les projets qui seront menés? Maître Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bon, vous savez, la fois dernière, on parlait de ce projet qui s'exécutait à l'est. Je ne sais pas si c'est clos là-bas. Et quels sont les résultats par rapport à... dans le résultat obtenu par rapport à ce qui a été attendu. Mais il est aussi vrai que par rapport au résultat sur le terrain que madame est en train d'évoquer, et vu ce qu'elle avait dit la fois passée, hein, que le projet devrait commencer, c'est pas plus d'une année qu'on a passé cette émission, si je ne me trompe pas. Parce que moi, des fois, le temps devient très court, peut-être c'est 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais et à entendre ce qu'elle est en train de dire, c'est comme si nous pouvons aussi douter. Elle pouvait aussi nous donner ses bénéfices de doute. Mais comme elle dit que c'est palpable,
oui,
nous comptons voir ça pour accepter un peu du Thomas, de Saint Thomas. Et puis...
Saint Thomas Gaston Angandou. Ok.
Voilà. Donc, je voulais peut-être que madame puisse nous préciser clairement, parce qu'en réalité, au vu du sujet qui est là, moi, j'ai vu, il y a des routes à Kinshasa qui sont asphaltées, mais aussi des routes de dessertes agricoles dans des territoires, des provinces ciblées. Et aussi, elle parle des vulnérables, hein, qui sont nombreuses, qui sont dans cette catégorie, si vous les connaissez. Je ne sais pas comment concilier les routes qui sont priorisées et la vie de ces vulnérables, la protection des faits vulnérables là, mais aussi les conflits intercommunaux, communautaires. Vous n'ignorez pas que ça soit à l'est, même dans les provinces qu'ils ont ciblées ici, il y a des communautés, hein, qui s'entretuent, qui se battent. Et comment ces projets comptent résoudre ces problèmes, ou à quel stade, hein, à quel niveau ils ont déjà résolu les problèmes liés à ces thématiques ici. Moi, je vois pas les constructions des routes, je pense que tout le monde passe avec ces projets-là, bien que sur terrain, on peut douter aussi. Hein.
D'accord.
Moi, je compte voir.
D'accord, Saint Thomas. Madame Kapinga, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, M. Gaston. Je ne sais pas de quelle période elle parle, parce que je me rappelle que depuis l'année passée, on a passé 3 émissions.
Il fait peut-être référence à la dernière émission qu'on a fait avec
nous
ici.
Nous l'avons fait exactement le 9 décembre, je ne peux pas oublier, parce que c'était le jour de mon anniversaire.
Ah, d'accord.
Donc, je
ne
peux pas oublier. Et le 9 décembre, nous avions parlé effectivement de certaines réalisations. Et comme j'avais eu à le dire, nous étions en cours. Et tout ce que je viens de donner ici comme résultat, ce sont le rendu au 31 décembre. D'accord? La dernière émission, on avait parlé du projet en général et surtout de ses objectifs et de ses ambitions. Mais aujourd'hui, on est en train de parler des réalisations. Donc, nous avons quitté la phase de prévision. Nous sommes aujourd'hui en train de parler concrètement de ce qui a déjà été fait et de ce qui est en train d'être fait. Donc, tout ce que nous avons dit ici, que nous avons rendu 34 infrastructures, dont 8 centres de santé, ainsi que 26 écoles, vous pouvez le regarder sur Radio Okapi ou sur la page web de Star RDC et vous allez trouver toutes ces réalisations. C'est vrai que c'est son droit le plus légitime de pouvoir faire les Saint-Thomas. mais aussi c'est qu'il doit savoir ce que nous sommes dans un contexte où, quand bien même c'est un gouvernement, c'est un projet du gouvernement, mais le financement, il y a un bailleur qui l'a donné, qui l'a disponibilisé. Et le bailleur, il ne le fait pas dans la dentelle. Il ne peut pas se laisser berner. Mm-hmm. Ou vous allez dire qu'on a conçu autant et il n'y en a pas. Parce que le bailleur a plusieurs mécanismes de vérification.
Et pas moyen de mentir. Hein.
Et aujourd'hui, avec Google Maps, on est capable de retrouver tout ce que je suis en train de dire ici, avec leur localisation exacte. Parce que nous avons un instrument que nous appelons les Kobo Tools, les Kobo Collect, dans lequel nous renseignons tout ce que nous faisons à n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir accès à l'Internet. Il peut avoir accès à tout ce que nous sommes en train de faire. Il a posé la question de savoir quel est le lien entre ces projets et les routes.
Voilà.
Si j'ai bonne mémoire.
Comment concilier, voilà, vous parlez des routes, on parle aussi des femmes vulnérables, des personnes vulnérables, tout ça, les femmes victimes des violences, comment concilier tout ça?
Mais ce que notre ami doit savoir, c'est que sans route, il n'y a pas de développement. Ça, c'est indéniable. Une autre chose qu'il doit savoir, c'est que nous sommes dans un contexte nous sommes en train de travailler dans les territoires où je peux dire 90% de la population vit essentiellement de l'agriculture et du petit commerce. J'ai dit tantôt que notre cible, ce sont les vulnérables, la personne la plus vulnérable des communautés. Et cette personne-là, à 99,9% de cas, vit essentiellement de petite agriculture, l'agriculture de subsistance. Et si vous faites une petite agriculture, même la grande agriculture, il faut, même s'il s'agit de la petite agriculture, parce qu'on fait l'agriculture pour manger, mais on a besoin d'acheter les savons.
Oui.
Pour l'acheter, il faut vendre ce qu'on a produit.
Et avoir l'argent pour aller acheter.
Voilà.
Et pour vendre,
on doit évacuer.
Bien sûr.
Et pour évacuer, il faut qu'il y ait une route. Mmh. Donc, c'est une corrélation. Je suis désolée de voir qu'il a posé cette question-là. Bon, peut-être qu'il vit à Kinshasa et il ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans l'arrière-pays. Et même si nous rentrons dans le cas de Kinshasa, aujourd'hui, nous nous plaignons avec des embouteillages monstres.
Ah, qui fatiguent les gens tous les jours.
C'est pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de route. Les quelques routes qui existent ne suffisent plus pour la masse de véhicules et la masse de gens qu'il y a. Et si aujourd'hui on arrivait à créer des routes secondaires, ça aura une répercussion sur le coût des produits. Parce qu'une maman qui doit acheter son sac de foufou à Libongo, qui doit prendre toute la journée sur la route pour arriver chez elle, d'abord elle a perdu toute une journée.
Oui.
Et de deux, peut-être qu'elle est obligée de prendre des transports fractionnés parce que la route ne les permet pas.
Elle dépense plus.
Elle va le mettre sur le coût de vente de son produit. Mmh. Et les produits vont hausser. Il y a une grande corrélation, une corrélation indéniable entre la route, le développement et la vulnérabilité.
Mais Madame Kapinga, le projet Star-Est avait prévu également des routes à Kinshasa, d'appuyer la construction des routes. Qu'en est-il?
Bon, en fait, c'était dans les discussions. On était encore dans les discussions pour voir parce que j'ai allé dire que nous avions eu la demande de Madame le Premier ministre qui avait demandé partout il y avait des conflits et elle avait aussi ajouté la ville de Kinshasa avec le phénomène Mobondo. Ah, pardon, avec le phénomène Kulunda.
Oui.
Et donc, nous, on avait pensé que quand nous avons eu le problème à l'Est, parce que nous étions basés à Goma, mais avec la prise de Goma, nous ne pouvions plus y travailler. Il fallait voir comment se déporter ailleurs. On avait pensé qu'on pouvait travailler dans la ville de Kinshasa, mais on s'est rendu compte qu'à Kinshasa, il y a d'autres projets avec le même bailleur qui travaille déjà dans plusieurs activités que nous, on avait prévues. Mmh. Et aussi, ce n'est pas aussi évident de pouvoir échanger avec le politique dans la ville de Kinshasa, nous avons pensé que on pouvait aller ailleurs où les besoins se faisaient beaucoup plus sentir qu'à Kinshasa où il y a déjà beaucoup d'intervenants. Voilà pourquoi nous n'intervenons plus dans la ville de Kinshasa.
Dans la ville de Kinshasa.
Nous sommes maintenant dans le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe.
Et le Maïndombe. On va accueillir peut-être le tout dernier auditeur avant de clôturer cette émission. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, merci Jody. Je salue Maman Kapinga. Je dois vraiment dire à Maman Kapinga que je ne suis pas content de ce qui est devenu. Pour autant que lorsque j'étais expert auprès du gouvernement, nous quand on rédigeait le projet Stat-Est, c'était une forme de plan Marshall pour la stabilisation des provinces de l'Est, le Nord, le Sud, vous et l'Ituri. Et quand vous prenez les 250 millions de dollars que nous avons mis à charge de fonds, c'était effectivement pour qu'on essaye de réparer les équipes de développement dans ces trois provinces. Aujourd'hui, nous sommes en train d'une manière ou d'une autre réduire très sensiblement l'efficacité du résultat attendu du projet lorsque maintenant on veut parler de Star RDC. Bon, moi, je me dis, madame, est-ce que vous maîtrisez vraiment les problèmes de l'Ituri, les problèmes du Nord et du Sud qui vous... C'est vrai, le gouvernement vous demande de faire ça. Mais est-ce que nous avons modifié les paramètres du résultat attendu? Le budget qui doit compléter cet élargissement de ces actions prévues. Je suis désolé de le dire ainsi, je ne suis pas comme les autres partis du pays, mais je demande à ce que, puisque nous, en tant qu'initiateurs, puisque nous sommes auprès de ces trois gouverneurs qui ont initié ce projet et les porter auprès de la Banque mondiale sous la haute direction du chef de l'État, la question était qu'on stabilise l'est du pays en corrélation avec la correction des déficits de l'investissement de Kinshasa sur cette partie du pays. Merci beaucoup.
D'accord, merci Sylvain. Madame Kapinga.
Merci Sylvain, je vois vraiment qu'il parlait avec tout son cœur.
Il n'est pas
monsieur
content.
Monsieur Sylvain, hein. Je ne sais pas si vous êtes toujours à Bounia. Je pense que vous avez dit que vous étiez à Bounia.
À Bounia, oui.
Je ne pense pas que ce que nous avions prévu à Bounia, on a changé même des niota. Nous sommes en train de travailler avec le même gouverneur, avec le même gouvernement provincial de l'Ituri, d'où moi-même j'ai été au mois de janvier. Et moi, c'est la première fois. Il dit qu'il a été parmi les concepteurs du projet. Félicitations d'y avoir été. Mais vous le savez qu'un projet, il est dynamique. Il n'est pas statique. Et nous avons connu des situations sur le terrain qui ont exigé à ce que les autorités du pays puissent voir comment utiliser ces fonds. Monsieur Sylvain, vous venez de le dire, vous avez été parmi les concepteurs, vous savez que c'est un crédit, ce n'est pas un don.
Il vous reste 20 secondes.
Oui, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Un crédit, ce n'est pas un don. Tant que tel, on doit utiliser les fonds pour lesquels on a pris les crédits. D'accord. Et ce qu'il doit savoir, c'est qu'il n'y a pas que les trois provinces qui payent ces crédits. C'est toute la RDC qui le paye. Et si le gouvernement pense que c'est mieux de pouvoir aider là où il y a aussi de besoins, parce que nous ne pouvons pas travailler là où le gouvernement n'a pas la même mise.
C'est ça.
Donc, c'est le gouvernement qui a décidé.
Vous ne pouvez rien. Bien, Madame Brigitte Kapinga Saouda, coordonnatrice générale du projet Star RDC, merci et à la prochaine.
À la prochaine.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Sylvain Baouguéré était à la mise en onde. Voilà, Benjamin Moudoumbi a assuré la coordination et la réalisation. Meshak Mboutamoutou et Esther Mamboté ont assuré les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.